Chapitre 9. Les offrandes de Louis. Après la mort de Zélie, les Guérin insistent auprès de Louis pour la réalisation de l'ultime projet de sa femme, faire venir les Martin à Lisieux auprès d'eux. Isidore et Céline pourront ainsi le seconder dans l'éducation des filles et, avec leurs propres enfants, Jeanne et Marie, reformer une grande famille. Louis n'hésite pas longtemps et consent pour le bien de ses enfants. Pour lui, ce n'est pas un petit sacrifice. À Alençon se trouvent sa mère, ses amis, le pavillon, ses tombes, ses souvenirs. Marie le dit très bien dans une lettre à son oncle. « Pour nous, il ferait tous les sacrifices possibles. Il sacrifierait son bonheur, sa vie, s'il fallait pour nous rendre heureuses. Il ne recule devant rien, il n'hésite plus un instant. Il croit que c'est son devoir et notre bien à toutes, et cela lui suffit. » Isidore ne se ménage pas non plus, visitant pas moins de 25 habitations afin de trouver au Martin un lieu de vie idéal. Il le trouve le 10 septembre 1877, à 764 pas de sa propre pharmacie. Il a compté. Se trouve la coquette demeure que les filles Martin baptiseront les Buissonnets. Cette jolie petite maison bourgeoise, qui possède un grand jardin, va devenir le nid douillet de cette famille endeuillée. Les filles, après une visite d'adieu au cimetière Notre-Dame où repose Zélie, s'y installent le 15 novembre avec l'aide des Guérin, pendant que Louis reste quelques semaines de plus à Alençon pour liquider l'entreprise. Il leur écrit alors avec quelques recommandations. « Je vous presse toutes sur mon cœur comme je vous aime et vous confie à votre sainte mère. » C'est une fois de plus une espérance solide qui soutient la famille dans l'épreuve du deuil. Tous savent que Zélie reste près d'eux, veille sur eux. Elle manque bien sûr terriblement à chacun. Louis n'aimait pas être séparé de sa femme, ne fût-ce que pour quelques jours. On imagine donc la souffrance que représente pour lui la séparation de la mort. La blessure des enfants n'est pas moindre. Mais comme Zélie l'avait prévu, son foyer retrouve rapidement un autre équilibre. Léonie et Céline choisissent Marie comme maman de substitution, tandis que Thérèse se tourne vers Pauline. Marie, qui a presque 18 ans, reprend vaillamment le rôle de maîtresse de maison et d'éducatrice des plus petites, suivant le modèle de sa mère et la pédagogie visitantine qu'elle a expérimentée. Une nouvelle vie s'organise au Buissonnet. Louis, selon l'expression de ses filles, en est le roi chéri. Les Martin, éprouvés par le deuil, resserrent les rangs et apprécient de rester entre eux. L'attrait de Louis pour la solitude ne fait que grandir avec la perte de sa femme et il ne cherche pas à se mêler à la vie mondaine lexovienne, se contentant de partir chaque trimestre à Alençon pour y retrouver ses amis, sa mère qui coule une vieillesse heureuse chez l'ancienne nourrice Rose Taillé, et pour prier sur la tombe de ses chers disparus. Ses filles n'ont guère plus le goût des mondanités, si bien que la famille Martin, en dehors des Guérin, fréquente peu de monde. Ils ne se replient pas pour autant sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Tous se rendent à la messe chaque matin. Louis préside à la prière familiale des repas et du soir. Thérèse écrira qu'elle n'avait qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. Parfois, l'âme contemplative de Louis est tellement saisie par la grâce qu'il ne peut retenir ses larmes. S'il laisse à Marie le soin d'enseigner le catéchisme aux petites, son attitude est souvent occasion d'édifier ses filles. Voyant la bonté de Dieu en toutes choses, il communique autour de lui son émerveillement et son action de grâce. Thérèse aimera à rappeler à ses sœurs les phrases qu'il répétait souvent, telles celles-ci, le bon Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Ou, Seigneur, augmentez en nous la foi. Louis s'est aménagé, en remplacement du pavillon, la pièce la plus haute de la maison, le belvédère, en quasi-cellule de prière et d'étude. Il y passe de longues heures en oraison ou à lire. Nul doute qu'il y retrouve également, dans la prière, sa chère épouse. Une confidence de 1885 nous permet d'imaginer la force de leur relation qui perdure au-delà de la mort. La pensée de votre mère me suit aussi constamment. C'est à elle que Louis, comme Marie, demande de l'aide pour l'éducation des enfants. Marie est consciente qu'elle ne peut remplacer une telle mère et fait cette humble prière. « J'espère plus de la protection de ma sainte maman que de mes faibles efforts. » Prière qui porte ses fruits, en particulier avec Léonie, dont elle peut écrire « Je m'aperçois qu'elle change de jour en jour depuis quelque temps. Ne l'as-tu pas remarqué, mon petit père ? Mon oncle et ma tante s'en aperçoivent déjà. Je suis sûre que c'est notre mère chérie qui nous obtient cette grâce, et je suis persuadée que notre Léonie nous donnera un jour de la consolation. » Quant à Louis, il joint à son autorité paternelle une tendresse toute maternelle. Son cœur était d'une tendresse exceptionnelle à notre égard, atteste Céline. Il ne vivait que pour nous. Il n'y a pas de cœur de mère qui le surpasse. Avec cela, sans faiblesse. Les affaires domestiques courantes sont entre les mains de Marie, mais c'est Louis qui donne le ton et la ligne générale. Ses valeurs n'ont pas changé depuis Alençon. La maison doit être bien tenue, mais toujours dans un esprit de sobriété. On y vit et mange simplement, Louis ne tolérant ni gaspillage ni dépenses inutiles. Il veille à ce que ses filles aient tout ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Jouets, livres, animaux, matériel de peinture pour les artistes de la famille, Pauline et Céline, mais s'oppose à tout caprice. L'oisiveté est proscrite. Louis partage son temps entre l'éducation de ses filles, la gestion de ses biens, l'entretien du jardin, de la volière et de la basse-cour, et bien sûr, les œuvres de charité. Il participe notamment aux conférences Saint-Vincent de Paul, aide un monastère voisin à gérer ses finances, consacre une partie du lundi à recevoir des pauvres à la maison. Pour ses filles, peinture, couture, entretien de la maison et études rythment les journées. Ne pouvant se résoudre à se séparer de Léonie, Céline et Thérèse, Louis ne les envoie pas en pension, mais les inscrit comme demi-pensionnaires à l'abbaye, une bonne école de Lisieux tenue par des bénédictines. Il va souvent les chercher lui-même, écoutant attentivement le récit de leur journée. Il leur apprend à respecter l'autorité des maîtresses et aussi celle de la nouvelle servante, Victoire. Celle-ci dit des Buissonnais que c'est un vrai petit couvent, davantage en raison de la foi profonde et de l'amour qui y règne que du silence ou de la clôture. Car l'ambiance entre les cinq jeunes filles dynamiques et leur bon père est fort joyeuse. Thérèse nous a laissé de longs récits sur les soirées et les dimanches au Buissonnais. Chaque soir, en effet, Louis se transforme devant ses filles émerveillées en pasteur animateur. Il commence par leur lire, en le commentant, un passage spirituel, souvent issu de l'année liturgique de Don Guéranger. Puis, de sa belle voix, il leur chante un extrait de son large répertoire, ou se prête à de comiques imitations. Thérèse est sur ses genoux, buvant tout comme du petit lait, et fera plus tard bon usage au Carmel de tout cet héritage. Puis vient l'heure des jeux, Louis se révélant un joueur de dames quasi imbattable. Enfin, on se réunit autour de la statue de la Vierge pour remercier de la journée. Le dimanche, après les offices, c'est la traditionnelle promenade où Louis fait profiter ses filles de sa connaissance de la nature, ou bien pêche, pendant qu'elle s'amuse autour de lui. La Saint-Louis est un jour de fête au Buissonnais. La maison s'orne de fleurs et de guirlandes. Les cinq filles montent, pas à pas feutrées, surprendre leur père au belvédère. Thérèse y va de son petit compliment. L'un d'eux, tout à fait révélateur de l'amour que les enfants Martin portent à leur roi, a été conservé. « En grandissant, je vois ton âme, toute pleine de Dieu et d'amour. Cet exemple béni m'enflamme et je veux te suivre à mon tour. Je veux devenir sur la terre ta joie, ta consolation. Je veux t'imiter, petit père, toi si tendre, si doux, si bon. » Puis suit un grand repas de fête. Louis tient à faire découvrir le monde à ses filles. Il les emmène tour à tour à Paris, à Deauville, à Trouville, où elles passent de belles vacances chez les Guérin, à la grande exposition du Havre. Ainsi, la famille vit-elle pour l'instant le paisible bonheur que Zélie avait toujours souhaité pour les siens. même si Louis, tout comme sa femme, laisse une entière liberté à ses filles quant à leur avenir, l'ambiance familiale est propice à l'éclosion des vocations. Les unes après les autres, les filles Martin vont entendre résonner en leur cœur l'appel à se consacrer à Dieu. Louis soutient chacune dans sa démarche. Pourtant, il lui en coûte. Pauline est la première à vouloir s'envoler du nid, comme l'avait prévu Zélie. L'exemple de sa tante visitantine l'avait profondément marquée, et c'est d'elle qu'elle avait reçu, dans un songe mystérieux, la confirmation de sa vocation. Considérant la situation familiale après la mort de sa mère, Pauline choisit d'abord de rester un temps auprès des siens et de seconder Marie dans l'éducation de Céline et de Thérèse. L'appel se fait cependant de plus en plus pressant, et fin 1881, alors qu'elle a 20 ans, elle prend contact avec la visitation du Mans, vers laquelle tout semble la conduire. Mais le 16 février 1882, alors qu'elle assiste à la messe non loin de la statue de Notre-Dame du Mont-Carmel, elle est saisie par une certitude. C'est dans l'ordre de Sainte Thérèse d'Avila que le Seigneur l'appelle. À Lisieux se trouve un carmel récemment fondé où elle entre parfois pour prier avec son père. Louis est dans sa retraite du belvédère quand il voit venir à lui sa fille, tout émue. C'est avec une grande bonté qu'il accueille la confidence, se permettant seulement une question de bon sens. La santé fragile de sa Pauline pourra-t-elle supporter la rigueur de la cesse carmélitaine? Devant la détermination de sa fille, il ne pose guère plus d'objections et lui donne sa bénédiction. Son cœur de père est partagé. D'un côté, il est profondément heureux que Dieu appelle sa fille. C'est une joie et un honneur, et il sait qu'il peut compter sur le Seigneur pour faire le bonheur de sa fille. D'un autre côté, pour lui qui aime si peu les séparations, c'est une profonde souffrance. Il en montre quelque chose à Pauline l'après-midi, quand, la croisant dans l'escalier, il lui confie avec émotion « Ma Pauline, je t'ai permis pour ton bonheur d'entrer au Carmel, mais ne crois pas que ce soit sans sacrifice de ma part, car je t'aime tant. » Toutes les filles Martin s'accorderont pour voir en Louis un Abraham des temps modernes. Le 2 octobre 1882, pour la première fois, le patriarche gravit la montagne du Carmel pour y offrir à Dieu son enfant. C'est avec une profonde douleur qu'il lui dit en la quittant « Est-ce que je ne te reverrai plus ?» Car au Carmel, à l'époque, une grille séparait le visiteur de la religieuse, et la famille Martin n'a droit qu'à une courte visite par semaine. Ces parloirs deviennent vite le grand bonheur de Louis, non seulement parce qu'il y retrouve sa fille, mais aussi parce qu'elle l'initie au maître du Carmel, Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. L'humble père se laisse enseigner par sa fille les voies de l'oraison carmélitaine, et son âme, assoiffée de Dieu, en est comblée. Mais une nouvelle épreuve l'attend. L'équilibre de Thérèse, qui a alors 10 ans, est profondément ébranlée par la perte de sa seconde maman, et la Benjamine tant aimée de Louis tombe gravement malade en mars 1883. Très vite, la médecine se révèle impuissante, et Louis voit sa petite reine sombrer dans la maladie. Elle ne le reconnaît plus, à tel point qu'un jour il doit sortir de sa chambre en larmes, car la petite a crié d'effroi en le voyant. Louis, selon sa propre expression, prend alors le ciel d'assaut pour sauver Thérèse. Il fait, entre autres, dire une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. C'est pendant cette neuvaine, le jour de la Pentecôte, que la statue de la Vierge, si vénérée de la famille, s'anime et, souriant à l'enfant, la libère de tous ses maux. Avec un bonheur immense, Louis peut ainsi écrire à un de ses amis « Je te dirai que Thérèse, ma petite reine, c'est comme ça que je l'appelle, car c'est un beau brin de fille, je te l'assure, est tout à fait guérie. Les nombreuses prières ont emporté le ciel d'assaut, et Dieu, si bon, a bien voulu capituler. » À cette même époque, Marie fait la connaissance d'un jésuite, le père Pichon, grand prédicateur. Il va peu à peu devenir le conseiller spirituel de toute la famille. Sans que Louis s'en aperçoive, son aîné commence alors un difficile discernement qui la conduira elle aussi vers le Carmel. Mais auparavant, elle permet à son père de réaliser un de ses rêves, un pèlerinage vers la Terre Sainte. Nous savons combien Louis aimait les pèlerinages. À 62 ans, il ne craint pas l'aventure de la route, bien au contraire. Il ne pourra, hélas, atteindre la Terre Sainte, mais va traverser en un mois et demi, en compagnie d'un prêtre ami, Munich, Vienne, Constantinople, Athènes, Naples et Rome. Son âme s'emplit d'actions de grâce devant toutes les merveilles qu'il découvre. « Si je pouvais, écrit-il à ses filles, vous faire ressentir tout ce que j'éprouve en admirant les grandes et belles choses qui se déroulent devant moi, mon Dieu, que vos œuvres sont admirables !»« Je m'écrirais volontiers, c'est trop, Seigneur, vous êtes trop bon pour moi !» Rome en particulier touche son cœur de chrétien, mais Louis commande son voyage en bon augustinien. Tout ce que je vois est splendide, mais c'est toujours une beauté terrestre, et notre cœur n'est rassasié de rien tant qu'il ne voit pas la beauté infinie qui est en Dieu. À bientôt le plaisir de la famille, c'est cette beauté-là qui nous en rapproche davantage. C'est donc avec bonheur et beaucoup de nouvelles histoires à raconter que Louis regagne son foyer. Louis aurait pu finir sa vie ainsi, entouré de l'affection de ses filles, roi aimé du domaine des Buissonnais. Mais Dieu a pour lui des projets plus grandioses. Quand on considère la fécondité de l'acte de foi d'Abraham, qui, pour n'avoir pas refusé à Dieu son fils unique, a engendré la multitude des croyants, on peut imaginer celle de Louis Martin, qui va offrir à Dieu toutes ses filles les unes après les autres, avant de s'offrir lui-même. Le second de ses sacrifices, et non le moindre, est celui de Marie, qui décide en 1886 de rejoindre Pauline au Carmel. Louis a toujours aimé son aîné, son diamant, d'une manière particulière, et cette fois-ci il ne parvient pas à cacher sa douleur. Marie raconte. Il poussa un soupir en entendant une telle révélation. Il était bien loin de s'y attendre, car rien ne pouvait faire supposer que je voulais être religieuse. Il étouffa comme un sanglot et me dit « Ah, ah, mais sans toi !» Il ne put achever. Et moi, pour ne pas l'attendrir, je répondis avec assurance « Céline est assez grande pour me remplacer. Tu verras, papa, que tout ira bien. » Alors ce pauvre petit père reprit « Le bon Dieu ne pouvait me demander un plus grand sacrifice. Je croyais que tu ne me quitterais jamais. » Et il m'embrassa pour cacher son émotion. Le coup est bientôt double, car pendant le voyage d'adieu de Marie à Alençon, Léonie, sans avoir prévenu personne, entre chez les Clarisse. La famille en est atterrée, mais Louis, avec grandeur d'âme, prend la défense de sa fille. Il se doute bien, au fond, que Léonie ne pourra tenir sous cette règle austère, mais il la soutient, et, quand elle revient un mois plus tard après un échec cuisant, il s'emploie à adoucir le plus possible sa déception. Il croit fermement qu'avec le soutien de sa mère, cette fille aussi le quittera pour le cloître. Le 15 octobre 1886, en la fête de Thérèse d'Avila, Louis conduit Marie au Carmel. Au Buissonnais, Céline, qui a 17 ans, prend le relais de sa grande sœur, pendant que Thérèse, du haut de ses 13 ans, brûle de rejoindre ses aînés. Après la grâce de complète conversion qui l'a fait définitivement sortir de l'enfance à Noël 1886, elle décide de ne plus attendre et s'ouvre de son projet à Louis le jour de la Pentecôte 1887. Thérèse raconte avec quelle délicatesse il accueille la nouvelle. À travers mes larmes, je lui confiais mon désir d'entrer au Carmel. Alors ses larmes vinrent se mêler aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même. Et dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Nous continuâmes longtemps cette promenade, mon cœur soulagé par la bonté avec laquelle mon incomparable père avait accueilli ses confidences, s'épanchait doucement dans le sien. Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint. Louis montre alors la pleine mesure de son abnégation paternelle. Il ne se contente pas de donner à Thérèse son autorisation. Devant le refus du supérieur du Carmel de laisser rentrer une si jeune fille, il va prendre avec un désintéressement admirable tous les moyens pour l'aider. Monseigneur Huguenin, l'évêque d'abord visité, n'en revient pas. On n'a jamais vu un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu que cet enfant de s'offrir elle-même. Le zèle de Dieu brûle si bien Louis qu'il ne regarde pas à sa propre peine et se fait ainsi le parfait instrument de la Providence. Sans son soutien, Thérèse ne serait pas entrée au Carmel avant 21 ans, et qu'en aurait-il alors été de sa course de géant? Devant l'hésitation de l'évêque, Louis et Thérèse décident de remonter plus haut, au pape lui-même. Ils s'inscrivent avec Céline. Léonie est alors entrée pour la première fois à la visitation, au pèlerinage national à Rome. Le grand voyageur est par ailleurs bien content d'avoir l'occasion de faire découvrir à ses filles les beautés de l'Italie et de la ville éternelle. Louis vit intensément ce nouveau pèlerinage, impressionnant les autres pèlerins par son recueillement, mais aussi par son exquise charité. Il laisse aux autres les meilleures places, s'emploie à dérider un voisin amer, trouve la première occasion de serrer la main d'un pèlerin qu'il a traité de pharisien. Il profite avec bonheur de la présence de Thérèse, qui s'apprête à le quitter, ne lâchant pas son bras. Louis n'est pas peu fier de ses deux filles qui le lui rendent bien. Il n'y avait pas dans tout le pèlerinage, écrira Thérèse, un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Puis vient le jour de l'audience pontificale. Thérèse reçoit du pape une parole prophétique. « Vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Et Louis, d'une certaine manière, reçoit un geste prophétique. On le présente au pape comme le père de deux carmélites, et Léon XIII, en signe de bénédiction particulière, lui impose longuement les mains. Marie, toujours proche de son père malgré le cloître, lui écrit « Je suis tout embaumée de la bénédiction du Saint-Père. Ah, je ne m'étonne pas qu'il t'ait donné un regard tout particulier. » Lui, le représentant de notre Seigneur sur la terre, devait être inspiré par lui pour te comprendre, ô Père vénéré. Il a béni tes cheveux blancs, il a béni ta vieillesse. Il me semble que c'est Jésus lui-même qui t'a béni, qui t'a regardé. Thérèse, avec quelques années de recul, y voit plus encore. Le pape l'a marqué d'un sceau mystérieux au nom du Christ lui-même. Louis console de son mieux sa fille de l'apparent échec, puis partage sa joie quand le 1er janvier 1888, elle reçoit enfin l'autorisation d'entrer au Carmel. 3 mois de délai lui sont encore imposés, pendant lesquels Louis s'ingénie à combler sa benjamine, lui proposant même de l'emmener en Terre Sainte. Le 9 avril, il gravit une 3e fois la montagne du Carmel pour offrir à Dieu ce qu'il y a de plus précieux. C'est à genoux, en larmes, qu'il bénit une dernière fois Thérèse avant de la voir disparaître en clôture. Le lendemain, il écrit à un ami « Thérèse, ma petite reine, est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Mais il m'aide si puissamment qu'au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie. » À quelqu'un qui lui dit qu'il n'a rien à envier à Abraham, il répond vivement « Oui, mais je l'avoue, j'aurais levé lentement mon glaive, espérant l'ange et le bélier. » Céline décrit au Carmel l'héroïsme paternel, et Pauline répond, se faisant le porte-parole de Zélie. « Comme elle doit te sourire d'en haut, notre bonne mère, comme elle doit être réjouie de voir sa barque chérie si bien dirigée par toi et vers le ciel. » Léonie est alors de retour au foyer, après avoir dû interrompre un premier essai à la visitation à cause d'un problème de santé. Louis n'en doute pas, elle y retournera bientôt. Il ne lui reste donc que Céline, qui a alors 19 ans. Constatant son talent pour la peinture, Louis lui propose, quelques mois après le départ de Thérèse, de l'accompagner à Paris pour y suivre des cours. Céline refuse et se sent obligée d'en révéler la raison à son père. Elle aussi a entendu l'appel pour le Carmel. « Viens !» s'écria aussitôt Louis. « Allons ensemble devant le Saint-Sacrement remercier le Seigneur des grâces qu'il accorde à notre famille et de l'honneur qu'il me fait de se choisir des épouses dans ma maison. Oui, le bon Dieu me fait un grand honneur en me demandant tous mes enfants. Si je possédais quelque chose de mieux, je m'empresserais de lui offrir. Même si la perspective de cette nouvelle séparation est douloureuse, Louis exulte. Il bénéficie à cette heure d'une grâce particulière de paix et de joie. Au-delà des grilles, il sent la chaleureuse affection de ses filles. Une joie surnaturelle l'habite, et ses filles verront, dans cette période, une sorte de Tabor. Cependant, Thérèse écrira « Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre, fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. » Louis aimait à réciter cette prière que Marie lui avait donnée sur une image représentant le Christ en croix. « Qu'à cet objet, tout soit sanctifié. Qu'à cet objet, tout soit sacrifié. Et puisse, au dernier jour de mon pèlerinage, la mort en me frappant, trouver en moi l'image d'un Dieu crucifié. » Après avoir offert à Dieu toutes ses filles, c'est lui-même que Louis va offrir en holocauste, devenant une vivante icône de la Sainte Face. Un an auparavant, le 1er mai 1887, alors qu'il n'a pas 64 ans, il subit une première attaque de la maladie qui va l'emporter. Au moment de partir à la messe de 7 heures, Louis est frappé de paralysie. Tout le côté gauche est engourdi, la langue empâtée. C'est la première atteinte cérébrale d'une artériosclérose qui évoluera pendant 7 ans, avec des phases de rémission et d'aggravation, et qui, associée à des poussées d'urémie, atteindra ses facultés intellectuelles. Pour l'instant, il en faudrait plus pour l'empêcher d'aller à la messe. Comme Zélie quelques années plus tôt, il s'y traîne tant bien que mal, et, au retour, dit à ses filles « Mes pauvres enfants, nous sommes aussi fragiles que les feuilles des arbres. Un soir, nous avons comme elles un aspect magnifique, et, le matin, une heure de gelée nous a flétris et abattus. » Alerté, Isidore prescrit le repos total et vient appliquer 12 sangsues derrière l'oreille de son beau-frère, qui ne perd pas son sens de l'humour. « Je trouve que la table du festin est bien petite pour tant de convives. » Les mois qui suivent, Louis se fatigue de plus en plus vite. Durant le pèlerinage à Rome, il est parfois si pâle qu'il effraie ses filles. Au mois de mai 1888, après la confidence de Céline, il se rend à Alençon. À son retour, il raconte au parloir du Carmel « J'ai reçu, dans l'église Notre-Dame, de si grandes grâces, de telles consolations, que j'ai fait cette prière. Mon Dieu s'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert. » Notons que c'est à Alençon, auprès de Zélie, et en quelque sorte à son exemple, qu'il s'offre en hostie sainte, vivante, agréable à Dieu. Romains 12.1. Quelques jours plus tard, le curé de la cathédrale de Lisieux lance un appel aux paroissiens. Il a besoin de 10 000 francs pour faire construire un nouveau maître-autel. 10 000 francs, c'est la valeur de la dot d'une fille Martin. Louis les apporte sans délai au curé stupéfait, dont il exige seulement la discrétion. En l'apprenant, Isidore proteste contre ce geste qu'il juge excessif. Thérèse lui répond « Après nous avoir toutes données au bon Dieu, il est bien naturel qu'il offre un autel pour nous immoler et s'immoler lui-même. » Sans la valeur de la croix, on pourrait croire à une piété doloriste. La croix du Christ nous a sauvés. C'est aussi la croix que tout chrétien, dont la vocation est d'être un alter Christus, est appelé à embrasser pour le salut du monde. Dans la maladie de Louis, on peut ainsi déceler une véritable passion dont nous ne connaîtrons tous les fruits qu'au ciel. Dès la fin du mois de mai 1888, l'état de Louis s'aggrave sensiblement. Malaise, troubles urinaires, perte de mémoire, perte de la notion du temps. Il s'en rend brutalement compte le jour où il retrouve sa perruche préférée morte, faute d'avoir été nourrie. Ses filles religieuses s'alarment de son état, et Céline décide de rester auprès de son père aussi longtemps qu'il le faudra. lui demeure dans la paix, disant aux Carmélites, « Ne craignez rien pour moi, mes enfants, car je suis l'ami du bon Dieu. » Il n'attend pas de Dieu qui le tire de ce mauvais pas, sachant que Dieu fera tout au mieux pour lui. C'est encore en pleine conscience qu'il accepte le sacrifice et ses conséquences, car un jour où Céline lui avait parlé d'un homme qui perdait la tête, il avait répondu qu'il n'existait pas à ses yeux de plus grande épreuve. Dès le mois de juin 1888, les premiers troubles hallucinatoires apparaissent. Louis croit que la guerre est de retour et la vie de ses filles menacée. Il fugue même, expliquant à ses filles atterrées que c'est pour devenir ermite. Les mois qui suivent sont un cauchemar pour tous. Souvent lucide, Louis appelle parfois la mort de ses vœux, mais conclut toujours « tout pour la plus grande gloire de Dieu », phrase qu'il répète comme une litanie quand il perd pied. Céline l'atteste. Même déformée, toutes les pensées de notre père restaient orientées vers le service de Dieu, qui avait été le centre de toute sa vie. Céline a le cœur brisé de voir son père dans cet état, à tel point que l'idée du suicide lui traverse l'esprit. Ses sœurs religieuses ressentent douloureusement l'impuissance où les réduit le cloître. Toutes vivent dans la crainte d'un malheur. En janvier 1889, cependant, Louis semble aller mieux. Fruit d'une grâce particulière, il peut se rendre à la prise d'habit de sa reine et partager sa joie. Thérèse verra en ce jour magnifique où, selon l'usage de l'époque, Louis conduit saint Benjamin à l'autel, la fête des rameaux de son père. Un mois plus tard, c'est l'entrée dans la passion, pour lui et comme pour toute la famille. Le 12 février, date que Thérèse, avec une foi sublime, n'hésite pas à inscrire parmi les plus grands jours de grâce de sa vie, Louis est pris d'un délire bien plus fort que les précédents. Il croit que la révolution est aux portes de la ville et se saisit d'un pistolet pour aller défendre ses filles carmélites. Céline et Léonie assistent seules à l'atroce scène sans parvenir à le raisonner. Prévenu, Isidore se voit obligé de prendre la décision qui s'impose. Il fait interner Louis à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur, à Caen. Céline raconte « Léonie et moi, muettes, nous avons gardé le silence tout le temps. Nous étions anéantis, brisés. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jean 21, 18. La passion est là. À l'horreur de la situation s'ajoute l'humiliation. Les rumeurs en ville et même au Carmel vont bon train. On prétend que son austérité a perdu Louis, ou au contraire qu'il a la syphilis, ou encore que ses filles sont coupables de son état par le chagrin qu'elles lui ont donné en le quittant. Mais ce qui broie surtout le cœur des filles Martin, c'est de savoir leur père, leur roi adoré, chez les fous, livré à des mains étrangères. Quand Thérèse évoque la grande épreuve de sa vie, elle ne parle pas de sa nuit de la foi, mais de la maladie de son père. Épreuve dont elle se sert comme d'un tremplin, en posant un acte de pure foi. Comme elle avait autrefois découvert la bonté du Père dans le visage de Louis, elle y reconnaît maintenant le visage humilié du Christ. Par la passion de son Père, Thérèse découvre celle de Jésus, dans toute sa folie d'amour pour l'homme. C'est à cette époque que Thérèse de l'Enfant Jésus prend le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle écrira « Jésus brûle d'amour pour nous, regarde sa face adorable, regarde ses yeux éteints et baissés, regarde ses plaies, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. » Pour les filles Martin, leur famille vient d'être frappée, comme autrefois celle de Job. Mais selon l'expression de Thérèse, c'est un coup d'amour. Si bien que d'un commun accord, elles font poser une plaque de bronze dans la chapelle du Carmel, sous l'image de la Sainte Face, où il est écrit « Sit nomen domini benedictum ». Cette citation est tirée du livre de Job. « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit béni. » Job 1, 21. Le premier fruit de la passion de Louis est sans nul doute cette poussée de foi extraordinaire dans le cœur de ses filles, sans laquelle Thérèse n'aurait pas été la sainte que nous connaissons. Louis est donc à l'asile, mais vivre en l'hôpital psychiatrique n'est pas un obstacle à la sainteté. Créé par Monseigneur Jamet, le bon sauveur n'est pas l'enfer qu'on pourrait imaginer. C'est à l'époque un hôpital psychiatrique pionnier, où les malades sont traités avec la plus grande humanité par des religieuses dont c'est la vocation. Le traitement consiste essentiellement en une régularité parfaite du rythme de vie et en une occupation constante. Tout au long des 3 années qu'il va y passer, Louis garde par intermittence assez de lucidité pour sentir, accepter et sanctifier son épreuve. Sœur Costard, qui va s'occuper de lui avec une particulière bienveillance, l'accueille en lui disant qu'il peut être un apôtre précieux pour tous les malades qui l'entourent. Il répond « C'est vrai, mais j'aimerais mieux être apôtre ailleurs qu'ici, enfin, puisque c'est la volonté de Dieu. Je crois que c'est pour abattre mon orgueil. » Et au médecin « J'avais toujours été habitué à commander, et je me vois réduit à obéir, c'est dur. » Mais je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais pas eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une. Apôtre, il va l'être, auprès des pensionnaires tout d'abord. Louis sait voir au-delà du masque de la folie des cœurs à convertir. Il refuse l'appartement séparé qu'on lui propose pour vivre au milieu des plus pauvres. Partage avec toutes les douceurs qu'il reçoit de ses filles, ne cesse de leur prêcher l'amour de Dieu. Il édifie également le personnel. Non seulement il ne se plaint jamais, mais il trouve tout ce qu'on lui donne excellent. Il fait des renoncements sans fin, écrit Sœur Costard, qui, comme les autres infirmières, est bouleversée par la douceur de Louis et répète souvent « Il y a quelque chose de si vénérable ». Bien sûr, il y a aussi des crises d'agitation ou de confusion, des délires hallucinatoires pendant lesquels on est obligé de l'enfermer. Et puis ce moment terrible entre tous où, suite à un malentendu, deux hommes de loi viennent voir Louis et le poussent à renoncer à ses biens, prétendant venir de la part de ses filles. Louis fond en larmes en disant « Ah, mes enfants m'abandonnent et n'ont plus confiance en moi !» Rien ne pouvait lui être plus amer. Heureusement, Céline et Léonie, qui lui rendent visite toutes les semaines, le rassurent sur ce sujet. Ses visites, ainsi que les lettres du Carmel, pleines de tendresse et d'encouragement, sont sa consolation. Il ne s'y accroche pas, cependant. Apprenant un jour que Léonie et Céline sont en vacances chez les Guérin, il s'exclame « Tant mieux, dites-leur de rester aussi longtemps que leur bon oncle le jugera nécessaire. Je ne veux pas qu'elles reviennent à cause de moi. » Mais son plus grand soutien, c'est comme toujours dans la prière que Louis le trouve. Il est le visiteur le plus assidu de la chapelle et communie aussi souvent que son état le permet. Dans ces périodes de lucidité, il décerne la volonté de Dieu dans sa situation et ne prie que pour la vivre plus saintement. À ses filles qui lui proposent de s'associer à une neuvaine pour sa guérison, il répond « Non, il ne faut pas demander cela, mais seulement la volonté de Dieu. » Il faut reconnaître, dans un abandon aussi sublime, la prolongation de tous les abandons successifs de sa vie. Louis, dans ces circonstances terribles, poursuit vaillamment son chemin de sanctification. « Je crois vraiment, écrit Céline à ses sœurs, que plus il va, plus l'expression de son visage est paisible et sainte. » Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la dernière photographie de Louis. Au cours de ces 3 années, il baisse peu à peu, mentalement comme physiquement. En 1892, Céline le décrit ainsi. Le résultat des assauts qu'il avait subis était une très douce enfance, et encore, pas tout à fait l'enfance, car il comprenait et sentait ce que des enfants ne comprennent et ne sentent pas, et l'on constatait le chagrin qu'il éprouvait de ne pouvoir s'exprimer comme il l'aurait voulu. Louis ne constitue plus un danger pour les autres ni pour lui-même, et ses jambes maintenant paralysées réduisent son autonomie. Aussi le laisse-t-on sortir de l'hôpital le 10 mai 1892. 2 jours plus tard, on le conduit au Carmel. Il n'arrive pas à parler, mais semble comprendre toutes les paroles de ses filles. et quand elles lui disent au revoir, il lève l'index et parvient à articuler « Au ciel ». Le retour dans sa famille adoucit l'épreuve pour lui comme pour ses enfants. Léonie et Céline louent une petite maison proche des Guérins, dans Lisieux, et installent leur père au rez-de-chaussée. Un domestique des plus dévoués, Désiré, est engagé pour s'occuper de lui. Au contact du saint vieillard et sous l'assaut des prières de Céline, Désiré finit même par se convertir. Les Guérins sont toujours d'une aide précieuse et veillent sur toute la famille. Louis n'est que douceur pour les siens, même si parfois il semble plongé dans une profonde tristesse. Il parle rarement, mais jamais de manière délirante, manifestant sa joie quand Pauline est élue prieure du Carmel en 1893, ou demandant qu'on prie pour lui. Au milieu du naufrage de ses facultés et de sa mémoire, certains traits de sa personnalité demeurent intacts, sa douceur, son âme contemplative. Il n'est jamais plus heureux que quand on le promène en pleine nature. Les Guérins, ayant hérité d'une propriété dans l'Eure, la Musse, Louis va y passer ses deux derniers étés. Céline y décrit une scène où nous le retrouvons bien. « Je me souviendrai toute ma vie de son beau visage, quand, le soir, à la nuit tombante, dans le fond du bois, nous nous sommes arrêtés pour entendre le rossignol. Il écoutait, avec une expression dans le regard. C'était comme une extase, un je ne sais quoi de la patrie qui se reflétait sur ses traits. Puis, après un bon moment de silence, nous écoutions toujours, et j'ai vu des larmes qui coulaient sur ses joues chéries. » C'est à la Musse que Louis meurt. Le 27 juillet 1894, il s'affaiblit notablement, et le 28, il reçoit les derniers sacrements. Le dimanche 29 au matin commence l'agonie. Ne respirant qu'avec peine, Louis semble inconscient. Mais quand, peu avant 8 heures, Céline récite à haute voix la triple invocation « Jésus-Marie-Joseph », Louis ouvre grand les yeux et fixe sa fille avec une tendresse qu'elle n'oubliera jamais. Dans ce regard si vivant, il lui semble retrouver, l'espace d'un instant, son roi dans sa splendeur d'autrefois. Puis les paupières de Louis se referment pour toujours. Louis, au seuil de ce dimanche, ce jour du Seigneur qu'il avait tant sanctifié, entre dans la vie. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît et que, par là, il entrât dans sa gloire, lit-on sur son image mortuaire? Le ciel n'est jamais loin, et Thérèse le chante. Notre Père chéri est près de nous. Après une mort de 5 ans, quelle joie de le retrouver toujours le même, cherchant comme autrefois tous les moyens de nous faire plaisir. Louis a retrouvé sa Zélie, son Hélène, ses fils et sa première petite Thérèse. Il faudra attendre 1959, année de la mort de Céline, devenue elle aussi carmélite, pour que toute la famille soit enfin réunie. De cette famille, qui a montré au monde entier la face amoureuse de Dieu, Louis avait écrit « Je suis pressé de remercier et de vous faire remercier le bon Dieu, car je le sens, notre famille, quoique très humble, a l'honneur d'être au nombre des privilégiés de notre adorable Créateur. » Conclusion. Saint. La Providence a voulu qu'il faille attendre 150 ans après leur mariage pour que Louis et Zélie soient, ensemble, proclamés bienheureux. Pourtant, la vox populi des proches les canonise même de leur vivant. Les filles Martin ne parlent que de leurs saints parents, et Isidore nous considère comme un pygmée à côté d'eux. Les voisins, les amis, les prêtres et les religieux de leur entourage, tous s'accordent sur leur sainteté. L'Église universelle ne l'aurait su qu'au ciel, si leur Benjamine n'avait braqué le projecteur sur ses parents, qu'elle a chanté bien souvent. « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Lève les yeux vers la sainte patrie, et tu verras sur des trônes d'honneur un père aimé, une mère chérie, auquel tu dois ton immense bonheur. » Au soir de la canonisation de Thérèse, le 17 mai 1925, le cardinal Vico, responsable des causes de béatification, s'exclame « Eh bien, maintenant, on demande à Rome qu'on s'occupe du papa. » La publication de la correspondance familiale à partir de 1941 fait ensuite sortir Zélie de l'ombre. Le père Pia écrit alors « Histoire d'une famille » qui se vend à plus de 100 000 exemplaires dans le monde entier. Dès lors, le Carmel et le Vatican vont recevoir des milliers de lettres témoignant de l'affection de gens de tous les pays pour Louis et Zélie, et de grâces obtenues par leur intercession, guérison, réconciliation familiale, conversion, grâce temporelle et spirituelle. Louis et Zélie ne chôment pas. En voici quelques exemples adressés des États-Unis à Céline dans les années 1950. Nous serons très reconnaissantes si vous voulez bien nous envoyer 1000 images de Louis Martin et 1000 images de Zélie Martin, avec la prière pour leur béatification. Nous pourrons les distribuer ici et travailler pour cette sainte cause. Nous pensons qu'ils ont déjà fait un miracle ici en guérissant une petite fille d'une maladie sans espoir et incurable, un cancer du sang. Une neuvaine leur avait été faite et elle a été guérie. Prieur d'un Carmel des USA. Le cher père continue de pratiquer sa charité, même sur ce continent. Un exemple seulement. Une de nos sœurs, sœur Delphine, décédée maintenant, reçut la visite d'une mère qui lui demanda conseil au sujet d'une lourde croix qu'elle avait apportée. Sœur Delphine lui dit « Priez Sainte Thérèse ». Peu de jours après, cette mère, en passant devant l'église franciscaine de Saint-Pierre, au cœur de Chicago, rencontra un vieux monsieur qui lui dit « Vous êtes troublé ? Entrez dans cette église, et à 3 heures, un prêtre de haute taille ira au confessionnal. Allez-y, dites-lui votre peine et il vous aidera. » La jeune femme y alla, trouva ce que le gentleman lui avait dit, et le prêtre put la réconforter complètement. Sa tante lui offrit alors Histoire d'une âme. Quelle ne fut pas leur surprise, quand en la feuilletant, elle tomba sur le portrait de M. Martin. Elle s'exclama « C'est le même homme que j'ai rencontré devant Saint-Pierre et qui m'a conseillé. Ce n'est qu'un cas. Votre cher papa fait du bien sur la terre avec sa Thérèse. » Sœur Marie-Stéphanie, USA. J'ai prié la mère et le père de Sainte Thérèse, Louis et Zélie Martin, de m'aider à sauver mon foyer qui était à 2 doigts du divorce. Je suis heureuse de dire que par leur intercession, ma prière a été immédiatement exaucée. Madame J, USA. Les pétitions qui demandent leur béatification reçoivent des dizaines de milliers de signatures. En réponse à la ferveur populaire, les évêques de Lisieux et d'Alençon ouvrent 2 procès de béatification qui sont instruits séparément de 1957 à 1960, avant d'être réunis en une seule cause. Le père Siméon de la Sainte Famille, postulateur de la cause, Monseigneur Giovanni Papa et Madame Marie Perrier fournissent pendant des années un travail historique et critique considérable pour rédiger le Positio, dossier de plus de 2000 pages sur tous les aspects de la vie des Martins. Pour la première fois, la cause d'un couple est introduite au Vatican. Divers événements vont alors ralentir le processus et ce n'est qu'en 1994 que le pape Jean-Paul II signe le décret d'héroïcité des vertus de Louis et Zélie Martin, les proclamant vénérables. L'Église, dans sa belle prudence, avant de béatifier ou de canoniser une personne, demande toujours au ciel une confirmation, c'est-à-dire un miracle. C'est dans une famille italienne, en juin 2001, qu'il a lieu. Walter et Adèle Chiliro donnent naissance au petit Pietro, dont les poumons sont mal développés et qui ne survit que grâce à un respirateur artificiel. Les médecins jugent son cas désespéré. Sur les conseils du père Antonio Sangalli, toute la famille, le personnel de l'hôpital, la paroisse et des groupes de prière se mettent à prier Louis et Zélie. Leur réponse ne se fait pas attendre. Pietro est bientôt complètement et miraculeusement guéri. C'est aujourd'hui un charmant jeune homme qui vient à Louisieux avec sa famille pour remercier ses parents du ciel. Au bout d'une longue et minutieuse enquête, l'Église reconnaît cette guérison comme un miracle des Martins. Et le 13 juillet 2008, 150 ans jour pour jour après leur mariage, elle annonce leur béatification pour le 18 octobre suivant. Ceux qui y participèrent n'oublieront jamais cette cérémonie, à la fois simple et grandiose, qui eut lieu à Lisieux en présence de 15 000 personnes venues du monde entier, dans la joie et la ferveur. Si vous me permettez un souvenir personnel, ce jour compte parmi les plus beaux que j'ai connus. En voyant la basilique parée de couleurs et de lumière, remplie d'une foule applaudissant à tout rompre et chantant à plein poumon, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer Louis et Zélie au milieu de nous, émus et presque étonnés. Ces humbles parents, ces simples travailleurs, auraient-ils pu imaginer de leur vivant la gloire que l'Église de la terre, sans parler de celle du ciel, allait leur rendre? Zélie en particulier aurait probablement ouvert des yeux ronds. Cela nous dit peut-être quelque chose de la gloire cachée dans notre pauvre quotidien, dans nos difficultés. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. 2 Corinthiens 4:17. Il me sembla ce jour-là entrevoir cette gloire accordée aux parents Martin, qui n'est autre que la gloire de Dieu, et partager leur action de grâce. Depuis, le nombre de pèlerins qui viennent se recueillir à Lisieux ou à Alençon ne cesse d'augmenter. Ils témoignent de la présence de Louis et Zélie à leur côté, en particulier dans leur vie de famille. Des parents éprouvés par le deuil d'un enfant, par une maladie, expérimentent le soutien des Martins. De nombreux couples qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants se sont confiés à leur intercession, et beaucoup de petits Louis et de petites Zélie ont ainsi vu le jour. Depuis 2008, Zélie fait partie de la liste des prénoms les plus donnés en France. Pour bien des gens, Louis et Zélie sont plus que des saints patrons ou même des modèles. Ils sont des amis, des parents. D'une certaine manière, la famille Martin continue de s'agrandir. Elle ne cesse d'être rejointe par des personnes que Louis, Zélie, Thérèse et toute sa fratrie accueillent à bras ouverts et entourent de leur sollicitude. Les sanctuaires de Lisieux et d'Alençon reçoivent quotidiennement de tels témoignages et au ciel, on lira de bien belles histoires. Les Martins ne résolvent pas tous les problèmes, mais avec leur fille, ils auraient pu promettre « Ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes rôties dans le bac. Ce n'est pas ce que j'ai eu ni ce que j'ai désiré avoir. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais j'enverrai des lumières qui vous les feront apprécier et aimer. Vous serez obligés de dire comme moi « Seigneur, vous nous comblez de joie par tout ce que vous faites. » Leur influence est universelle. Depuis 2008, Alençon a reçu des pèlerins de 110 pays différents. Des communautés du monde entier se mettent sous leur patronage, comme l'importante communauté nouvelle de la Sagrada Familia au Brésil. Leurs reliques ne cessent de voyager, et on se souvient de leur présence significative lors du synode de la famille à Rome en 2014. Il était donc cohérent que Louis et Zélie soient canonisés. En effet, si une béatification propose les bienheureux à la vénération de l'Église locale, raison pour laquelle les béatifications ont généralement lieu dans les diocèses, la canonisation les offre à l'Église universelle. Là encore, il fallait un miracle. Le 15 octobre 2008, Carmen, grande prématurée, voit le jour à Valence, en Espagne. Très vite, les complications se multiplient et Carmen subit une terrible hémorragie cérébrale. Son papa demande la prière du Carmel voisin. Le 23 novembre, alors que l'état de Carmen semble désespéré, la prière du Carmel remet aux parents une prière à Louis et Zélie. Dès le lendemain, à la surprise générale, Carmen commence à aller mieux. Et au début de l'année 2009, elle peut rentrer chez elle. Mais l'hémorragie cérébrale se poursuit et ses conséquences pourraient être désastreuses. Nouvelle offensive de prière des carmélites et de la famille qui se rend auprès des reliques de Louis et Zélie alors en visite dans la région. Le 19 février, à l'examen, l'hémorragie a disparu et, chose encore plus improbable, il n'y a pas de séquelles neurologiques ou motrices. Carmen est aujourd'hui une petite fille en pleine santé. Lors de la reconnaissance du miracle, le 18 mars 2015, ses parents ont témoigné. La nouvelle en vue de la canonisation des bienheureux Louis Martin et Zélie Guérin nous remplit d'émotions, de joie et de gratitude. C'est que pour nous, ils nous font partie de notre famille depuis que nous les avons priés et qu'ils ont intercédé devant le Seigneur pour nous accorder la guérison de notre fille. Le couple Martin est un exemple d'union de la famille, dont le fondement est l'amour et le respect des enfants. Et nous, grâce à eux, nous pouvons démontrer ces valeurs à nos deux enfants. S'ils sont canonisés, ils doivent l'être ensemble, avait dit Paul VI, qui prit l'initiative d'unir leurs deux causes de béatification en une seule. Cet acte du Saint-Père est aussi fort que novateur. Jamais encore l'Église n'avait proposé de reconnaître la sainteté d'un couple. En canonisant pour la première fois de son histoire un couple en tant que couple, le 18 octobre 2015, lors du synode sur la famille, L'Église envoie un message fort. Elle montre toute la beauté du plan de Dieu sur le mariage et la famille et rappelle que le mariage est une voie royale de sanctification. Louis et Zélie eux-mêmes en avaient douté et il serait intéressant de chercher si, dans notre inconscient collectif catholique, si tant est qu'une telle chose existe, ne subsiste pas l'idée que la sainteté est réservée aux personnes consacrées ou à celles qui ont des trajectoires extraordinaires. La canonisation de Louis et Zélie souligne que la famille peut être un lieu d'amour si fort qu'elle témoigne au monde entier de l'amour de Dieu, et qu'une vie ordinaire, vécue avec Dieu, peut porter un fruit extraordinaire. En vivant simplement cet amour en famille au quotidien et jusqu'au bout, Louis et Zélie participent à l'embrasement du monde entier. Comme leur fille, ils passent leur ciel à faire du bien sur la terre. Je vous encourage à en faire l'expérience en vous confiant à eux. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Remerciements. Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez remercier avec moi Monseigneur Lagoutte, recteur émérite de Lisieux, pour sa belle préface. Julie Romer et Claire Perrault pour leur correction pleine de finesse. Sœur Alexandra et Marie Perrier pour leur soutien. Dominique Manviel qui m'a encouragée et guidée dans mon travail. Merci de tout cœur.